Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola.
Nous allons reprendre cette série de leçons sur la figuration. Après avoir examiné lors des dernières leçons, avoir terminé d'examiner la figuration naturaliste, je vais commencer aujourd'hui l'examen de la figuration de l'ontologie analogiste. Alors je rappelle que l'identification analogiste est fondée sur la reconnaissance d'une discontinuité générale des intériorités et des physicalités aboutissant à un monde peuplé de singularités. Donc un monde qui serait au fond difficile à habiter et à penser en raison du foisonnement des différences qu'il compose si l'on s'efforçait de trouver entre les existants comme entre les parties dont ils sont faits des réseaux de correspondance permettant un cheminement herméneutique. Car, au fond, la simple observation attentive du monde montre qu'il est composé d'une infinité de différences et qu'aucun des êtres, des choses, des situations, des états, des qualités, des processus qui s'offrent à notre curiosité, à notre observation, n'est absolument semblable aux autres. L'ontologie analogiste s'appuie sur cette expérience répétée de la singularité des existants et elle tente d'apaiser le sentiment de désordre qui résulte de la prolifération du divers au moyen d'un usage obsessif des correspondances. Chaque chose est particulière, certes, mais l'on peut trouver en chaque chose une propriété qui la reliera à une autre, et cette autre à une autre encore, de sorte que des pans entiers de l'expérience se retrouvent ainsi tissés par la chaîne de l'analogie. Un aliment, une partie du corps, une saison, une couleur, un animal, tous distincts, tous singuliers, seront néanmoins unis ou réunis parce que l'on pourra les associer au chaud ou au froid, au sec ou à l'humide, au jour ou à la nuit, au masculin ou au féminin. Face à la segmentation de tous les éléments du monde en une collection d'entités dont chacune est unique par son assemblage et par la combinaison de ses propriétés, il convient donc de relier ces éléments faiblement hétérogènes en une trame d'affinité et d'attraction signifiante, et je l'ai dit, c'est le recours à l'analogie qui permet cela. Réduire le chaos d'un monde contenant une infinité de choses différentes, chacune située en un lieu singulier, chacune au cœur d'un maillage qui lui est propre, exige en effet de reconnaître des liens de similitude autorisant des appariements interprétatifs entre des éléments ou des ensembles d'éléments initialement disjoints. Ces liens fonctionnent tous sur le mode de l'analogie. C'est pourquoi le terme qualificatif d'analogique ou d'analogiste m'a paru le plus approprié pour désigner ce schéma ontologique. Ils peuvent être ces liens de nature métaphorique, c'est-à-dire concerner la similitude des termes, comme la convenance, qui unit ce qui voisine dans l'espace, ou bien l'imitation, qui connecte par la ressemblance, ou bien ces liens analogiques peuvent être plutôt marqués par la métonymie, c'est-à-dire concerner la similitude non plus des termes, mais des relations, à commencer par l'analogie, proprement dite, et toutes les figures qu'elle permet, l'inversion, l'englobement, le dédoublement, à quoi s'ajoute l'attraction ou la sympathie. Un vaste registre, donc, dont l'analogisme a fait usage dans à peu près tous les domaines de la vie individuelle et collective, depuis les classifications socio-cosmiques jusqu'aux techniques de traitement de l'infortune, en passant par les théories de la personne humaine ou les méthodes de lecture du destin. Outre le cas très emblématique de la Chine, je rappelle une formule que j'affectionne de Marcel Granet, je le cite, « En Chine, la société, l'homme, le monde, sont l'objet d'un savoir global qui se constitue par le seul usage de l'analogie. » Ou encore, fin de la citation, outre aussi le cas de l'Europe de la Renaissance, on trouve des exemples fort bien décrits d'ontologie analogiste en Afrique de l'Ouest, au Mexique ou dans les Andes. Dans tous ces cas, l'intériorité et la physicalité sont fragmentées dans chaque existant, dans des composantes multiples, mobiles et en partie extracorporelles, dont les assemblages, toujours instables, toujours provisoires, constituent autant de combinaisons uniques que la pensée analogiste s'efforce de distribuer dans des chaînes de couplage qui marient le matériel et l'immatériel à tous les niveaux d'échelle du microcosme et du macrocosme. Car c'est une caractéristique tout à fait classique des ontologies analogistes que de décliner de façon obsessionnelle la thématique des rapports entre macrocosme et microcosme. Nous aurons l'occasion de le voir avec les images. Et parce qu'il s'agit en fond d'un moyen particulièrement efficace pour fixer dans un être privilégié, l'humain, une sorte de foyer plus dense, plus condensé de signification, limitant la prolifération des signes à une échelle singulière, celle de l'humain, et empêchant ainsi la réverbération illimitée, infinie des signes dans un monde clos, ce qui offre une garantie qu'il existe au fond, au moins dans le corps et dans la nature de l'humain, un gabarit d'interprétation qui permet de se repérer dans ce parcours infini et inlassable des similitudes. Quelques traits caractéristiques très rapides des finalités figuratives de l'analogisme, je les développerai tout au long des leçons qui viennent, de même que les collectifs au sein desquels le mode d'identification analogiste s'exprime peuvent être de nature fort diverse, de même, la mise en image de l'analogisme peut emprunter un grand nombre de voies et donc paraître moins spécifique que les modes de figuration des autres ontologies. Dans une ontologie où l'ensemble des existants est fragmenté, diffracté, en une pluralité d'instances, de déterminations, d'aspects, on comprendra aisément que l'association entre ces singularités peut être représentée de bien des manières. Comme pour les autres modes d'identification, on peut néanmoins tâcher de mettre en évidence quels sont les traits saillants qu'une mise en image de l'ontologie analogique ou analogiste devrait faire ressortir. D'abord, et par contraste avec l'animisme qui s'attache à figurer l'intériorité d'espèces des humains et des non-humains, par contraste avec le naturalisme qui s'attache à figurer l'intériorité individuelle des seuls humains, par contraste avec le totémisme, qui s'attache à figurer l'identité d'essence et de substance des membres humains et non humains d'une classe totémique, l'analogisme met l'accent sur la fragmentation des intériorités et sur leur répartition dans une multiplicité de supports physiques. Cela implique, d'une certaine façon, de désubjectiver l'intériorité des humains et des non-humains de façon à ce qu'elle soit disséminée, distribuée et couplée à une physicalité, elle aussi, distribuée. Autrement dit, il s'agit de donner à voir un ensemble de discontinuités faibles et organisées de manière cohérente, soit directement dans un seul objet, dont la nature composite devrait alors être évidente, soit indirectement, en indiquant que l'image est une partie métonymique du prototype, ou bien en mettant en évidence que chaque indice n'a un sens et une agence que parce qu'il est inséré dans un agrégat d'indices de nature différente, qui peut être structuré de façon spatiale, par alignement par exemple, ou par enveloppement concentrique, ou de façon temporelle, par exemple par simple rajout régulier d'un élément au tout. Bref, l'objectif figuratif de l'analogisme, c'est au premier chef de rendre visibles, présents, des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus, ce qui suppose notamment de multiplier les composantes de l'image afin de mieux désindividualiser, désubjectiver son sujet. Il s'agit, au fond, d'éliminer toute possibilité que l'on puisse appréhender dans l'image, comme c'est le cas avec l'iconographie naturaliste ou avec l'iconographie animique, l'effet d'attraction quasi-hypnotique d'une subjectivité singulière. En ce sens, et quelle que soit l'exactitude de la représentation des détails à laquelle la figuration analogique peut parvenir, elle ne vise pas tant à imiter avec vraisemblance, avec naturalisme, avec un mimétisme exact, un prototype naturel objectivement donné, qu'à restituer la trame des affinités au sein de laquelle ce prototype prend un sens et acquiert une agence d'un certain type. Alors, ces propos peuvent paraître terriblement abstraits, je vais les qualifier tout au long des leçons qui viennent, mais cela vient du fait que ce que l'analogisme s'efforce ou ambitionne de rendre présent dans les images se révèle encore beaucoup plus abstrait que ce que les autres modes d'identification visent ou de figuration visent à rendre présent, non pas une relation de sujet à sujet, comme c'est le cas dans l'animisme, ou une relation partagée d'inhérence à une classe, comme c'est le cas dans le totémisme, ou une relation d'objectivation engagée par un sujet connaissant ou un sujet producteur, comme c'est le cas dans le naturalisme, mais une méta-relation, c'est-à-dire une relation englobante s'efforçant de structurer des relations disparates. Donc c'est moins par le contenu ostensible de l'image qu'une telle ambition est repérable que par les différents mécanismes visuels au moyen desquels peuvent être représentés des agrégats cohérents, des réseaux spatiaux et temporels et des correspondances de niveau et d'échelle. Alors, avant de définir brièvement quelques structures organisatrices de l'image analogiste, je voudrais évoquer de façon visuelle, brièvement, deux illustrations de celles-ci que j'ai choisies à dessein, très loin l'une de l'autre. La première, je l'emprunte à un article de l'anthropologue indien Arjun Appadurai, qui s'intitule « The Thing Itself », qu'il a publié dans Public Culture en 2006. C'est un article qui, en fait, qu'Appadurai consacre à l'art indien, aux images en Inde, son pays de naissance. L'argument de l'article, c'est au fond que non seulement l'Inde fourmille d'humains, de façon proprement ahurissante, tous les gens qui ont été en Inde s'en rendent compte, hein, et c'est un constat commun et presque un cliché chez tous les visiteurs. Songeons par exemple aux pages que Claude Lévi-Strauss consacre dans Triste Tropique au contraste qu'il établit entre ce qu'il appelle les tropiques vacants, c'est-à-dire l'intérieur du Brésil, et ce qu'il appelle les tropiques bondés, c'est-à-dire l'Inde et le Pakistan. Mais l'idée aussi, c'est que l'Inde fourmille non seulement d'humains, mais d'objets, et d'objets qui sont étroitement enchevêtrés avec les humains. Appadurai envoie une bonne illustration dans les photos d'un grand photographe indien qui s'appelle Raghubir Singh, dont les compositions mêlent précisément la profusion des gens et la profusion des objets. Ça, c'en a été un très bel exemple. C'est une boutique de trottoir, hein, de miroirs, où l'on distingue plus véritablement les gens et les humains et les objets, et celle-là, avec le même effet aussi de réfraction, de diffraction de la vitrine, c'est un bazar à Bombay, Mumbai, vu de l'intérieur de la boutique. Les choses ici sont réfractées par les humains. Les artefacts s'entremêlent au corps. Dans une chaîne incroyablement dense d'effets matériels, où se croisent et se réfractent la main et le tissu, la boue, le métal, les visages, chacun saisi dans leur singularité et chacun se reflétant dans les autres. Dans ces photos de Raghubir Singh, on ne peut pas dire que les visages humains, qui sont parfois extraordinaires d'intensité, sont plus ou moins expressifs que les myriades de choses qui les entourent. Ce que son travail de photographe met en évidence, c'est que les artefacts en Inde forment partie d'une sorte de continuum vivant dans lequel les objets de la vie quotidienne et les visages des gens de tous les jours sont des éléments équivalents dans cet effet d'encombrement, d'entassement des êtres et des choses. Comme le souligne Appadurai, ce sens de la luxuriance des objets et de leur insertion naturelle dans l'ordre des choses se voit partout en Inde. Je cite Appadurai, « La société indienne est un panorama de tas, de piles, de monceaux, d'amas, de paquets, de paniers, de sacs, entre lesquels des gens apparaissent comme ouvriers, comme boutiquiers, comme vendeurs ambulants, comme ménagères et comme piétons, traçant leur chemin à travers un paysage infini de choses qui vont de la plus précieuse à la plus répugnante. » De ce constat, Appadurai tire une conclusion qui, me semble-t-il, peut être étendue à bien des images analogistes ailleurs dans le monde. Pour les êtres comme pour les choses, ce qui est recherché avant tout, c'est la chaleur de la profusion et l'enchantement de la multiplicité. C'est la mosaïque des formes et des couleurs, c'est la multiplication des facettes. Bref, tout sauf le minimalisme. Ce n'est pas, selon la formule du minimalisme, « less is more », mais plutôt « more is never enough ». En outre, cette profusion ne fait pas vraiment la différence entre humains et non-humains, ni entre objets d'art et objets ordinaires, ou même entre art populaire et art savant. L'extraordinaire abondance des formes, des matériaux, des couleurs, des styles dans la vie sociale indienne rend à peu près impossible une ségrégation marquée entre différents types d'objets qui seraient fondés sur des critères purement esthétiques. D'où cet enchevêtrement qui a été maintes fois noté entre l'art savant et l'art populaire, entre des sculptures d'une merveilleuse perfection plastique et ses chromos extraordinaires, entre la perfection plastique et le mauvais goût, qui est au fond la condition nécessaire de l'existence conjointe de cette prolifération d'existants humains et non humains. Transportons-nous maintenant très loin de l'Inde et à une période différente de la période contemporaine, dans le Moyen-Âge européen, à l'occasion d'un article de Jean-Claude Beaune sur le végétalisme dans l'art roman, qu'il a publié en 2009 dans un recueil de contributions sur le monde végétal, édité à Florence, principalement sur le monde végétal dans le monde médiéval. la profusion des êtres et des choses est ici, dans le cas présent, celle qui s'étale sur les chapiteaux, les colonnes et les tympans des églises. Mais avant d'en voir quelques exemples, je voudrais donner quelques précisions sur l'idée même d'ornementation dans l'art roman. Certains auteurs médiévaux établissent une relation entre l'idée d'ordre, ordo, et celle qu'évoquent les mots de la famille d'ornatus et de décor. Ornare, c'est conférer à une chose une qualité d'ordre qui convient à sa nature et qui la parachève. Ce n'est donc pas de l'ornementation. Quant à décor, le terme désigne la beauté de l'ordre qui fait le decus, c'est-à-dire la dignité d'une chose parfaite. Isidore de Séville observe que le mot ornatus, traduction latine du grec cosmos, conjoint les idées d'ordre, de beauté et de monde, conjonction de sens qui est toujours en vigueur à l'époque romane. Le théologien Théophile, dans son De Diversis Artibus, offre une longue exégèse de ce que doit être l'ornatus dans la maison du Seigneur. La maison de Dieu doit ici être prise au sens littéral, comme le temple que David voulait construire avec toutes sortes de matériaux précieux et que Salomon réalisa pour la gloire de Dieu, lequel y prit plaisir, ce qui donc légitime l'ornatus des églises. Or, selon Théophile, l'exécution de cet ornatus exige les sept dons du Saint-Esprit, ce qui donne une idée de la dignité que revêt cette opération. Et à propos du second de ces dons, l'intelligence, il précise, je cite Théophile, il s'adresse à un disciple, « Par l'intelligence, tu as reçu la capacité de comprendre avec quel ordre, quelle variété et quelle mesure tu peux l'occuper, c'est-à-dire la maison du Seigneur, d'œuvres diverses. » Ordre, variété, mesure, ordo, varietas, mensura, qui forment une triade fondamentale dans le système des valeurs médiévales. Ordo, c'est une qualité qui est évidemment immédiatement rapportée à l'ornatus. Et c'est une notion centrale qui implique les idées d'ordonnance régulière, symétrique ou hiérarchique. Varietas implique l'introduction de différences formelles ou chromatiques dans la répétition, à quoi s'ajoute des idées, pour varietas, de richesse, de chatoiement, de miroitement, de virtuosité, de subtilité. Mensura, enfin, complète et contient la varietas pour qu'elle ne devienne pas une diversita, c'est-à-dire quelque chose de plutôt négatif, en évitant la prolifération incontrôlable. Mensura, donc, soumet la variété, la varietas, à une mesure ou à une proportionnalité qui peut être rythmique, numérologique ou géométrique, par exemple dans une séquence ornementale. Alors Théophile décrit ensuite l'ornatus végétal d'une église exécutée dans cet esprit. Je le cite, « Entrant dans la maison de Dieu avec confiance, tu l'as décorée avec magnificence et en parant les plafonds ou les parois d'œuvres et de couleurs diverses, tu as rendu visible d'une certaine manière, au spectateur, l'aspect même du paradis se couvrant de fleurs variées, verdoyant d'herbes et de feuilles. » Il ne s'agit pas ici seulement d'offrir dans une végétation paradisiaque un reflet nécessairement imparfait du céleste, parce que l'artiste, il a la capacité dans une certaine mesure, d'incorporer dans l'Église la réalité du paradis. Et à ce titre, Jean-Claude Beaune cite un passage admirable de l'abbé Sugère qui conclut le récit de la consécration de Saint-Denis par une invocation à Dieu, une formule qui synthétise tout à la fois l'esprit de l'ontologie analogiste médiévale et le rôle que les images profuses y jouent. Je cite Sugère, « Toi, » donc il s'adresse à Dieu, « qui conjoins en une forme unique les dissemblables, les êtres matériels aux immatériels, les corporels aux spirituels, tu transformes merveilleusement l'Église présente en royaume céleste. » Le contexte, à savoir l'attention minutieuse dont on sait que Sugère a porté à l'ornatus de Saint-Denis, dont il a suivi méticuleusement les travaux, montre bien que cette transformation merveilleuse de l'Église n'est pas seulement métaphorique, qu'elle transforme véritablement les fidèles en des participants à Dieu. Et les images rendent visible cette structuration de la varietas, de la profusion des êtres singuliers, par le biais de dispositifs de mensura, ordonnant les parties par des transformations réglées. On en a ici, dans ces deux chapiteaux, un bon exemple. Il y a dans le chapiteau de gauche une combinaison entre le végétal et un motif décoratif artefactuel, si on peut dire, un nœud d'entrelacs, et à droite, deux aigles qui sont au coin des chapiteaux et dont les ailes se déploient vers l'intérieur et deviennent végétalisées. Hein. Donc c'est une transformation entre deux ordres d'êtres. Alors, à présent, passons très rapidement en revue les mécanismes visuels au moyen desquels les images analogistes structurent des relations disparates et organisent le foisonnement des composantes élémentaires que leurs ontologies distinguent. Je m'attarderai ensuite, au cours des leçons qui viennent, sur chacun de ces mécanismes visuels tour à tour. Le premier d'entre eux, c'est l'hybridation. La figure exemplaire de l'ontologie analogiste, celle au moyen de laquelle on peut le plus aisément peut-être identifier une image comme relevant de ce registre, c'est la chimère, c'est-à-dire un être composé d'attributs appartenant à des espèces différentes, mais regroupés de façon à présenter une certaine cohérence sur le plan anatomique. La chimère, c'est donc un hybride complexe dont les éléments sont empruntés à des sources disparates, des espèces animales relevant de classes ou d'ordres différents, des plantes, les humains dans toute leur variété, et même des artefacts, mais qui sont exceptionnellement réunis dans un être sui generis. Alors cet être peut être un être singulier, comme l'hydre de Lerne, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul exemplaire, parfois une divinité ou un esprit, ou encore, comme dans la licorne ou le griffon, un spécimen d'une espèce peu commune, quoique réputé réel. Pour que cet agrégat de qualité soit plausible, il faut que chacune d'entre elles soit identifiable dans un élément anatomique. Il faut aussi et surtout que la combinaison de ces éléments parvienne à donner l'illusion de la vie sous la forme d'un organisme capable d'autonomie. Car la chimère possède toujours une unité de composition et un schème corporel relativement vraisemblable, en dépit du caractère hétérogène des pièces dont elle est faite. Si vous avez une chimère volante, eh bien, que ce soit un dragon, Garuda ou Pégase, les ailes seront toujours placées sur le corps à un endroit qui permet, dont on peut penser qu'elles permettent le vol, c'est-à-dire sur le dos et non sur le museau ou sur les pattes. Je reviendrai plus longuement tout à l'heure sur cette question des êtres hybrides. Je veux juste présenter maintenant quelques autres mécanismes visuels en introduction. Le deuxième, c'est cette correspondance entre le macrocosme et le microcosme dont j'ai dit tout à l'heure à quel point il était un élément central de l'analogisme. C'est un, je l'ai dit aussi, un moyen efficace, la correspondance entre macrocosme et microcosme, pour limiter et cadrer la prolifération des signes en concentrant leur principe de déchiffrement dans un être unique, distingué entre tous, qui se voit investi du privilège d'être le gabarit et le garant de la validité de l'interprétation des signes. Alors, une façon commode de mettre en évidence des liens d'analogie entre microcosme et macrocosme consiste à figurer directement sur le corps humain ou à relier celui-ci par des lignes à des signes cosmiques qui font écho à telle ou telle de ses parties. C'est le cas, par exemple, d'un motif très connu, qui est connu depuis l'Antiquité égyptienne et qui est très répandu encore au Moyen-Âge et à la Renaissance, le corps zodiacal, dans lequel les 12 signes du zodiaque sont associés à des parties du corps, depuis le bélier pour la tête jusqu'au poisson pour les pieds. Il est intéressant d'ailleurs de voir que cette enluminure qui est tirée des très riches œuvres du duc de Berry vient donc d'un ouvrage dans lequel on trouve aussi parmi les premières enluminures naturalistes, ce qui donne évidemment une idée de l'extrême entremêlement entre la tradition analogiste s'étendant et se poursuivant bien avant dans le XVIe et le XVIIe siècle et les prémices du naturalisme, puisqu'on trouve combinées dans un même ouvrage des figurations qui relèvent des deux registres. Relève aussi du même principe qu'on a appelé les anatomies tantriques, qu'affectionne l'art populaire indien, ses représentations, par exemple, du corps subtil dans la tradition tantrique tibétaine, les illustrations de certains manuels médicaux chinois. On en a ici une illustration classique d'anatomie tantrique qui date du XIXe siècle. Et dans tous ces cas, au fond, la figuration, elle est centrée sur le corps qui est perçu comme étant le gabarit du cosmos ou le réceptacle de ce que le cosmos contient, en tout cas la manifestation à son échelle de la diversité des éléments qu'il compose. Une autre façon de figurer des correspondances entre l'homme et le monde consiste à situer des activités humaines, des tâches à accomplir, des souvenirs de pérégrination, un itinéraire à suivre, dans un schéma du cosmos. La plupart des cosmogrammes sont construits ainsi. Soit que, comme c'est le cas dans les mandalas, par exemple, tantriques et bouddhistes, la figuration de l'univers y constitue comme un guide de méditation permettant à l'adepte de se déplacer successivement dans plusieurs niveaux jusqu'à atteindre une figure centrale qui est généralement Bouddha, le Bouddha, qui est le foyer de l'univers et le principe de toute réalité, soit que le cosmos soit représenté de façon beaucoup plus diagrammatique, mais en y ménageant des repères liés à l'expérience individuelle. C'est le cas de cette rosace votive des Cora du nord-ouest du Mexique, qui s'appelle bien à propos Chanaka, ça veut dire monde. Et le cercle central, donc c'est un cosmogramme, le cercle central représente une montagne, Tuakamu Uta, qui est le centre du territoire Cora, et en même temps l'axis mundi de leur territoire, tandis que les triangles qui sont disposés de façon concentrique tout autour sont en fait tout à fait iconiques, puisqu'ils correspondent à des montagnes, à des sites particuliers que les créateurs de la Rosace, qui sont des membres du Conseil des Anciens, ont fréquenté au cours de leur vie. Certaines Rosaces, d'ailleurs, incluent, sous une apparence relativement abstraite, des lieux qui sont maintenant très éloignés du territoire Cora, mais qui, du fait de la double résidence caractéristique de beaucoup de populations amérindiennes au Mexique, sont parfois très éloignés, comme les États-Unis, la Californie ou Chicago. Troisième mécanisme visuel, que, encore une fois, je présente ici de façon très rapide avant d'y revenir plus longuement plus tard. Troisième dispositif figuratif, donc caractéristique des ontologies analogistes, c'est la mise en évidence de ce que les éléments représentés sont interconnectés dans un réseau qui est ostensible. Car rendre visible de façon systématique des petits écarts organisés entre des éléments hétérogènes demande que chacun des éléments soit perçu à la fois comme différent de tous les autres et comme une partie d'un tout cohérent. C'est l'ensemble des objets entre lesquels une affinité quelconque existe qui est objectivé et non pas chaque objet pris séparément. De sorte que l'image doit donner à voir non pas une collection, mais les principes ontologiques ou fonctionnels qui la structurent. Alors un tel maillage peut être obtenu de diverses manières, on en verra plusieurs. D'abord par l'inscription du réseau des objets dans un espace délimitant leur agrégat. C'est tout à fait caractéristique des autels, disons, ou des systèmes d'amulettes et talismans dans lesquels chaque talisman ou amulette est plus particulièrement destiné à prévenir un danger ou à favoriser un dessein ou une action, et dont l'addition, voire l'accumulation, finit par constituer une sorte d'enveloppe protectrice polyvalente pour celui qui l'arbore. On en a ici un exemple. C'est un exemple d'une tunique de chasseur mandée de Côte d'Ivoire, dans lequel on a une surabondance et un caractère très disparate, hein, des pièces qui sont cousues sur le tissu, qui sont chacune donc des amulettes, et qui est une sorte de quintessence d'armure magique dont on trouve ailleurs dans l'archipel analogiste beaucoup d'autres illustrations. Il arrive aussi que les éléments constitutifs du réseau, tout en conservant chacun sa personnalité propre, rendent manifeste une identité collective dont la cohésion est réputée nécessaire à une fonction, le plus souvent une fonction réparatrice, ou bien à un renforcement de l'effet réparateur de cette fonction. Alors, un cas tout à fait caractéristique, ce sont des objets, certains d'entre vous, s'ils ont vu l'exposition de la Fabrique des images au musée des Quais Branly, les ont déjà vus, donc je les utilise ici. C'est un masque ici du Sri Lanka, qui sert aux danses d'exorcisme, et sur lesquels sont fixés 18 visages de démons, chacun d'eux, avec son histoire singulière, qui fait de lui la cause d'une maladie spécifique en même temps que le moyen de guérir cette maladie. Donc on a, par exemple, dans ce contexte thérapeutique, des masques particuliers qui représentent chacun des démons qui sont alignés de part et d'autre. Hein. Kana Saniya pour la cécité, Biri Saniya pour la surdité, Slesma Saniya pour l'épilepsie, mais leur conjonction dans ce masque, dit des 18 maladies, forme un démon composite, dont le principe englobant est en haut, hein, qui englobe et conjoint l'ensemble de ces démons, qui contient donc tous ces démons et qui donne à la séance d'exorcisme de plus grandes chances de succès dans les cas difficiles. Il est possible aussi de rendre visible l'appartenance à un réseau en mettant l'accent sur un mode de liaison uniforme, c'est-à-dire en jouant sur la répétition d'un schéma d'alignement ou d'alternance qui permet de mettre en évidence la continuité d'un lien, par exemple d'un lien de filiation ou d'un lien d'ancestralité entre des éléments qui varient peu et qui varient toujours de façon ordonnée. C'est le cas d'un autre objet... Non, je ne l'ai pas mis, tant pis. C'est que j'ai présenté dans l'exposition La Fabrique des images, qui est un bâton à divinité, ou Staff God, qui figure la succession des générations dans les... c'est une divinité caractéristique de Rarotonga, aux îles Cook, et qui représente les générations, et chacune d'entre elles étant posée de façon différente par rapport à la précédente, de façon à montrer la succession des générations, le tout englobé dans la tête d'un esprit qui structure l'ensemble. Un dernier mécanisme figuratif que la pensée analogiste exploite de façon systématique, c'est la répétition métonymique d'une image à différents niveaux d'enchâssement. C'est un mécanisme qui permet de structurer d'importantes populations de singularités au moyen d'un principe classificatoire simple et qui est très commun, en fond, dans l'organisation des collectifs analogistes eux-mêmes, où il prend généralement la forme d'une distribution hiérarchique démultipliée, chaque sous-ensemble de niveau inférieur se trouvant vis-à-vis des autres dans le même rapport inégal que les unités de niveau supérieur. Et dans le domaine iconique, on obtient cet effet très simplement par la réplique dans une même image, mais à des échelles différentes, d'un motif, d'une structure ou même de la totalité de l'image. Et le résultat est un objet fractal du type cristaux de neige. Revenons à présent, après cette présentation très générale de différents types de mécanismes visuels, à l'exploration plus systématique de chacun d'entre eux. Et maintenant, le premier d'entre eux que j'avais évoqué, à savoir l'hybridation. L'hybridation dans des êtres composites. La forme exemplaire, je l'ai dit, c'est la chimère. C'est une entité qui est faite de briques et de brocs, et où l'on distingue néanmoins des attributs qui sont empruntés à des sources hétérogènes et qui sont repérables comme telles. La tête de la chimère, originelle, ce qu'on appelle la chimère dans le monde grec, ressemble bien à une tête de lion, et sa queue à un serpent, et si on lui rajoute des attributs, par exemple des ailes, ce sont des ailes d'oiseaux reconnaissables. Bon, voilà une chimère moderne, si vous voulez, dans laquelle on a des attributs. Alors, elle est un peu transformée par rapport à la chimère telle qu'elle est traditionnellement décrite dans le monde grec, puisqu'on voit bien reconnaissable des éléments du lion dans la tête en particulier, des éléments du bouc dans l'arrière du corps, mais dans la chimère classique, en plus, il y a une tête de bouc qui se situe sur le haut du dos, et l'artiste ici a rajouté des ailes d'oiseau, tout en maintenant quand même le principe de la queue sous la forme d'un serpent. Cela dit, pour que ce cumul de qualités apparaisse plus ou moins vraisemblable, car, rappelons-le, bon nombre de chimères étaient réputées avoir une existence réelle, il faut que ce cumul se combine de façon telle que le résultat parvienne à donner l'illusion qu'il peut exister sous la forme d'un être soumis à des contraintes anatomiques et physiologiques pas trop éloignées de la règle commune. Alors, il y a sans doute une contrainte cognitive à cette exigence de relative vraisemblance anatomique, du moins si l'on veut prétendre que le produit de la composition existe réellement. Et c'est en cela que la chimère analogiste se distingue des animaux de l'héraldique, qu'elle soit européenne ou nord-amérindienne, par exemple. En effet, les animaux de l'héraldique sont le plus souvent de purs symboles qui sont accolés au sein d'une structure complexe, un écu, un mât héraldique, un panneau peint, chacun d'eux représentant un attribut, un nom ou une filiation spécifique. Et la plupart du temps, ces éléments ne sont pas eux-mêmes vraiment hybrides. Et en outre, ils n'ont aucune autonomie ou agence en dehors de la composition où ils sont enchâssés. Et lorsque les animaux armoriés sont bien des hybrides véritables, si on peut dire, comme c'est le cas dans l'héraldique européenne avec le griffon ou avec la licorne, c'est parce qu'ils procèdent d'un répertoire analogiste plus ancien et qu'ils sont réemployés pour leur puissance évocatrice par l'iconographie héraldique. Pourtant, la frontière entre chimère et héraldique n'est pas toujours aussi nette, dans la mesure où des êtres composites peuvent parfois être des illustrations d'une devise associée à une personne. On en a ici un bon exemple. C'est une sculpture qui représenterait Glélé, le roi du Dahomey, et le fait qu'il était représenté avec une tête de lion dérive de la devise qui lui est associée. « Je suis le lionceau qui sème la terreur dès que ses dents ont poussé. » À la différence d'un blason, toutefois, qui est un tableau d'attributs symboliques, associé à un individu, à un lieu ou à une lignée, la chimère personnelle, c'est ainsi qu'on pourrait peut-être désigner ce genre de statut, mêle très étroitement les qualités de la personne et les qualités de l'animal emblématique. Il ne s'agit pourtant pas non plus d'une image totémique au sens strict, dans la mesure où c'est l'aspect métaphorique de la conjonction motivée la plupart du temps par un énoncé explicite qui est mise en avant. Donc ce n'est pas « j'appartiens à la même classe ontologique que le lion ou que le kangourou », mais « je suis comme le lion sous certains aspects ». Ce lien entre la devise et la figuration imagée permet de souligner un trait typique des êtres composites. Ils sont, dans la très grande majorité des cas, des illustrations, des récits qui décrivent leurs qualités, les circonstances de leur genèse ou les actions dont ils sont des héros. Même, et peut-être surtout, quand on les crédite d'une existence réelle, il faut que la bizarrerie de leur apparence s'accompagne d'une étiologie et d'un mode d'emploi, l'un et l'autre étant vus comme des justificatifs de leur actualisation figurative. Peut-être même est-ce une caractéristique plus générale des images analogistes que d'illustrer, de condenser ou de ponctuer des énoncés, comme si, au fond, la complexité de la tâche qu'on leur confie, c'est-à-dire ordonner des choses disparates, ne pouvait se faire avec le seul secours d'une structuration dans l'espace, figuration iconique, et exigeait, en sus, la succession temporelle et le contrepoint sémantique que le récit apporte. Alors, il me semble que l'on peut distinguer les figurations d'êtres hybrides en au moins trois types élémentaires que j'appellerais le recomposé, le lexical et l'aggloméré. Terme purement conventionnel, si vous en avez d'autres à me proposer, je serais ravi. Le recomposé, c'est quoi ? C'est la forme classique de l'être composite et c'est la forme la plus commune. C'est la chimère, au sens littéral. Un être, donc, anatomiquement et fonctionnellement à peu près cohérent, bien qu'il soit constitué de parties d'autres êtres que l'on a décomposés en pièces élémentaires pour les recombiner en lui. La deuxième forme, l'hybride lexical, est l'illustration imagée d'un taxon dont le nom est composé, c'est-à-dire qui est désigné par la combinaison de deux lexèmes, qui renvoient chacun à des objets, naturels ou pas, issus de domaines sémantiques généralement bien différenciés. Par exemple, requin-marteau ou oiseau-mouche. L'image caractéristique de l'hybride lexical tend vers le rébus ou vers le calembour, puisque, au fond, elle combine les formes des objets dont le nom est composé, généralement sur un mode semi-ludique. Je ne m'étendrai pas sur cette forme que Dimitri Karadimas a examinée dans son article « Animaux imaginaires et êtres composites » du catalogue de la Fabrique des images. C'est à lui que je dois cette illustration qui est tirée du codex de Florence et qui représente donc quatre chimères sémantiques en nahuatl, c'est-à-dire c'est la décomposition et la recomposition de poisson-oiseau, poisson-colibri, poisson-papillon, poisson-jaguar, à chaque fois avec les caractéristiques de chacune des espèces. Donc, c'est pousser une absence, c'est illustrer une absence de motivation, puisque, au fond, la désignation initiale de ces lexèmes composés sont peut-être au départ motivés par des analogies d'apparence, mais se perdent avec l'usage, de la même façon que ça se perd dans les termes que nous employons nous-mêmes, comme oiseau-mouche. Lorsqu'on pense à l'oiseau-mouche, on n'imagine pas immédiatement la mouche, par exemple. Alors, le dernier type d'image hybride, que j'appelle aggloméré, se caractérise par le fait que les éléments qui constituent l'être composite ne sont pas des parties d'êtres existants, mais des êtres entiers qui s'amalgament pour former le volume, tandis que le contour reste homogène, à la manière des compositions d'Archimboldo, où figurent des plantes, des animaux ou des objets manufacturés. Et c'est dans l'art moghol, peut-être, que cette forme de représentation de l'hybridité a été développée avec la plus grande virtuosité. C'est un motif, en effet, qui devient extrêmement courant dans l'art moghol au XVIe et au XVIIe siècle. Alors, je me fonde là sur un travail de Michael Barry sur les miniatures moghols d'êtres composites. Je rappelle que la transmission de la culture persane, islamisée, et de son imaginaire à la fois mazdéen et soufi, s'est étendue bien au-delà du plateau iranien, tant vers l'Asie centrale et l'Afghanistan actuel, où le persan transcrit en caractère arabe s'impose aux côtés de l'arabe liturgique comme la langue de la poésie et de la chancellerie, transmis donc aussi bien vers ces régions septentrionales que vers l'Inde, où le même phénomène se produit dans le sultanat de Delhi. Et les invasions des Mongols, des XIIIe et XIVe siècles, dans les pays iraniens, puis leur conquête du trône de Delhi en 1526, n'ont fait que consolider cette influence. Les Mogols, donc, comme on dit en persan, pour Mongol, encouragent à Delhi l'émergence d'une culture de cour brillante dans laquelle l'art figuratif de tradition perse joue un rôle important. Le troisième empereur moghol, Akbar, se taille un empire absolument considérable qui rassemble à sa mort au début du XVIIe siècle plus d'un cinquième de la population mondiale d'alors, s'étendant depuis Kaboul jusqu'au Bengale. Akbar, il est né sunnite, mais il abolit au fond toute discrimination légale entre les sujets musulmans et hindous de son empire, et il promeut le persan, qui est l'idiome impérial, comme la langue commune de l'élite moghole, sans distinction de croyance. Et les peintres de la cour d'Akbar, les musulmans comme les hindous, illustrent donc pour lui les manuscrits des classiques persans dans le style iranien, mais en y apportant des innovations qui sont propres à l'école moghole. Et c'est dans ce cadre que se développe le motif des créatures composites. Voilà par exemple un exemple, l'éléphant. Autre exemple, encore une fois, l'éléphant chevauché par des démons. Alors, on interprète ces images comme une figuration du corps physique de l'homme, représentée par une monture composite, le dromadaire, le cheval ou l'éléphant, qui est contrôlée soit par l'âme vertueuse, soit par les démons, ce qui est le cas ici pour, dans les deux images, le deuxième cas, donc pour les démons. Dans tous les cas, le corps est vu comme un microcosme, où se mêlent et se combattent des pulsions physiques, sensuelles, émotives, bestiales, que l'âme doit impérativement dominer et chevaucher en maîtresse. Le corps physique est donc figuré comme une sorte de composite des pulsions et des forces intérieures, symbolisées par toutes sortes de créatures sauvages et rétives, le tout formant donc une monture difficile à maîtriser, mais indispensable à l'âme néanmoins dans son existence terrestre. Et cette image traditionnelle dans le monde islamique du corps physique comme monture, ou daba, monture de l'âme, remonte à une tradition ancienne. C'est l'image que Platon développe dans le Phèdre de l'âme comme un attelage ailé dont le cocher est la raison, mais qui est tiré par deux chevaux, dont l'un tend à l'élévation vers le bien, tandis que l'autre est gouverné par ses passions et tend à aller vers la terre. Dès le règne d'Akbar, l'image se stabilise et le souverain salomonique apparaît en cornac d'un éléphant soumis, formé de toutes les créatures du monde, auxquelles se rajoute généralement une vipère accrochée à la trompe, comme on le voit ici. Dans l'art indo-musulman des XVIIe et XVIIIe siècles, la monture composite de l'âme peut se présenter aussi sous la forme d'une sphinge, la borak ou éclair. Donc voici un exemple. Alors la sphinge possède une tête de fée, un corps de jument ou de lionne, une queue de vipère et bien d'autres éléments la composent au gré de l'inspiration des artistes. C'est la bête miraculeuse que le prophète Mohammed enfourcha dans son envol visionnaire à travers les cieux jusqu'au trône de Dieu, tout comme le corps physique, lorsqu'il est discipliné, permet à l'âme de monter jusqu'aux idées les plus abstraites et à la contemplation du bien. Et de même que le prophète réunit en lui les aspects spirituels de toute la succession des prophètes, de même, la bête qui lui sert de monture réunit tous les êtres du cosmos physique que Mohammed domine. Alors, il n'est pas impossible, comme le suggère Michael Barry, que ces montures composites aient été influencées par les composites grotesques de l'Europe chrétienne, notamment ceux dont les ateliers allemands de gravure s'étaient fait une spécialité, comme le bien connu alphabet gothique d'un artiste qu'on appelle le maître E.S., qui était actif dans la région de Strasbourg, probablement dans la deuxième moitié du XVe siècle. Il est au fond difficile de savoir qui a influencé qui, puisque les contacts entre les musulmans et les francs, surtout les vénitiens, étaient constants et que les œuvres d'art circulaient dans les deux sens. Sans doute les apports européens ne pouvaient-ils être reçus que s'ils s'inséraient dans un cadre symbolique admissible par l'islam. Et c'est le cas, par exemple, des gravures flamandes offerte par les jésuites portugais à la cour moghole à la fin du XVIe siècle, où c'est le cas aussi des dessins florentins qui trouvent leur voie jusqu'à Istanbul un siècle auparavant. Mais ce qui est partagé entre chrétiens et musulmans de cette époque, au-delà, disons, des grands pans d'une tradition religieuse et de la référence, pour certains d'entre eux en tout cas, au texte grec, ce sont les prémices d'une ontologie analogiste qui s'attache à réduire la profusion des singularités au moyen, notamment, d'un principe de totalisation englobant qui est le Dieu unique. Autrement dit, la circulation du schème de la monture composite se fit aussi facilement, non seulement entre l'Europe chrétienne et le monde islamisé, mais aussi avec le reste de l'Inde, dominé par l'hindouisme. Le syncrétisme culturel militant des empereurs moghols fit que de nombreux peintres hindouistes travaillèrent dans les ateliers impériaux, dont ils maîtrisèrent très vite les techniques et le style, de type donc iranisant, et qu'ils répandirent ensuite auprès de princes hindous. Or, le thème du sage dominant sa monture composite y était d'autant plus admissible dans le monde hindouiste que, dans la tradition sanskrite également, le cheval symbolise la monture physique des âmes. Au demeurant, la tradition de la monture chimérique s'est poursuivie en Iran tardivement, puisque l'on en retrouve des exemples jusqu'au XXe siècle. On en a ici un bon exemple. C'est un tapis, donc produit en Iran au début du XXe siècle, qui reproduit probablement une miniature dont l'inspiration est fournie par les vers qui sont délicatement calligraphié en haut, hein, du grand poète Saadi. Et les vers disent « L'arbre a bourgeonné, les rossignols sont enivrés, le monde entier est baigné de bien-être, les amis sont ensemble dans la joie. » Et les amis en question, ce sont les deux dives, c'est-à-dire des génies pré-islamiques qui... dont l'un est sur un chameau et dont l'autre mène le chameau. Et les bourgeons, vous voyez, sont formés de têtes d'animaux, de démons et d'hommes. Et le chameau composite est formé, pour l'essentiel, d'animaux et symbolise, alors on ne le voit pas très bien, mais en regardant plus attentivement, ce sont pour l'essentiel des animaux, il y a quelques figures humaines aussi, et ils symbolisent le pouvoir magique des génies. Un dernier mot, dans tous ces cas de monture composite, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une chimère classique, même si la sphinge s'en rapproche beaucoup. En dehors du contour reproduisant la forme de l'animal, en effet, aucune vraisemblance n'est recherchée dans la disposition des êtres qui composent la créature composite et qui sont d'ailleurs présentés entiers et non décomposés en attributs caractéristiques qui serviraient eux-mêmes à recomposer un être singulier. On est donc bien ici dans le cas d'une chimère sur le mode aggloméré, une addition d'êtres entiers dont le cumul dessine une forme particulière, et non dans le cas d'une chimère recomposée du type centaure ou griffon. Il n'en demeure pas moins que ces images, peut-être précisément parce qu'elles ne cherchent pas à donner l'illusion du réel, sont de puissants opérateurs d'appariement incorporant de manière spectaculaire, dans une figuration synthétique, la double exigence de l'ontologie analogiste, d'une part rendre perceptible la prolifération infinie des singularités, et d'autre part, organiser celle-ci dans un schème dont la structure soit immédiatement visible. Aucun doute ne plane sur le fait que ces images sont des métaphores illustrées, mais leur force visuelle et la quasi-vraisemblance de leur composition imposent au spectateur l'évidence sensible de ce que tous les habitants d'un cosmos profus peuvent être conjoints en une forme unique, uniformiter concopulas. C'est la formule qu'employait tout à l'heure Sugère, que j'ai citée, pour désigner l'action de Dieu. Toi qui composes, qui réunis des êtres dissemblables, uniformitaires, dans une forme unique. Au fond, la chimère possède cette propriété remarquable de donner à voir, dans une entité unique, un ensemble de discontinuités faibles et systématiquement organisées, c'est-à-dire d'incarner dans une image, de la façon la plus économique possible, la double caractéristique définissant l'analogisme, à savoir l'hétérogénéité des éléments et la cohérence de leur liaison. Et c'est ce que nous continuerons donc d'examiner avec d'autres mécanismes visuels de l'analogisme dans les leçons suivantes. Je rappelle qu'il y a 15 jours de vacances universitaires, donc le cours va s'interrompre pendant ces 15 jours et qu'il reprendra le 5 mai.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.